Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour.
Deuxième débat télévisé hier soir, je commençais par une question très large. Est-ce que vous pensez être parvenu à vous démarquer, à vous distinguer des 6 autres candidats, et sur quel sujet depuis le début de cette campagne?
Je dirais que ma position est de dire nous ne pouvons pas entrer dans cette campagne présidentielle avec des sujets qui sont en quelque sorte désespérants pour la société. Expliquer qu'il n'y aura pas de croissance, c'est la fin du travail, et que nous devons finalement mettre des cataplasmes sociaux sur toute la société, avec un programme de cette nature, nous finirons comme la SFIO en 1969 à 5%. Nous devons reconquérir les classes moyennes et classes populaires. C'est pour ça que je défends la feuille de paix. Je défends le travail fier, comme disait Victor Hugo. Je défends l'idée que le système économique aujourd'hui n'est plus adéquat. Donc, le partage des décisions dans les entreprises, l'entrée des salariés dans les conseils d'administration, le partage des gains de productivité aussi, négociations dans les entreprises. Je défends le télétravail, c'est une forme de bonheur au travail pour réhabiter en France. Bref, cette vision de la société qui est en quelque sorte malthusienne, où on a baissé les bras, une société de la résignation, ne peut pas être l'avenir de la gauche. Donc, c'est vrai, je défends la relance économique et écologique pour remettre en marche la croissance dans ce pays, comme ça a été le cas dans le reste du monde. Donc, c'est une vision, c'est vrai, très volontariste. Je défends d'ailleurs le fait de m'attaquer, ce que j'ai appelé hier soir, au mur des puissants, c'est-à-dire ceux devant lesquels on baisse les bras. Les banques, la concentration des médias privés, les paradis fiscaux,
les médias
GAFA,
privés,
Google,
oui,
Amazon, Facebook, etc.
Avec une attaque contre Bolloré, c'était nécessaire, c'était une façon de régler un compte, Arnaud Montebourg?
Ah, c'était pas contre Bolloré, puisque j'ai exposé qu'il s'agissait...
Si, vous l'avez cité
Non, mais puisque Mme Ferrari ne voulait pas me laisser terminer, je lui dis, ça concerne votre chaîne. Elle n'était pas en cause, Mme Ferrari, puisqu'elle est l'employée. Mais il s'agissait non pas d'une vision personnelle, mais générique. On a juste un problème avec la concentration des médias, et il va bien falloir y remédier.
Votre intention de départ n'était pas de dénoncer Vincent Bolloré et son empire de médias. C'est à cause de la réplique de Laurence Ferrari.
C'est les quelques, j'allais dire, personnes très riches qui, dans ce pays, achètent des médias, les concentrent et finalement unifient la pensée dominante et le miroir que les Français, dans lequel la France peut se regarder et qui est complètement univoque. C'est ce qu'on appelle la pensée unique.
Ils atteignent au pluralisme.
Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait, là, pour le coup, M. Bolloré. C'était un exemple. C'est qu'il a préféré détruire sa chaîne plutôt que d'organiser, d'accepter le pluralisme. Ce qui est quand même le comble de la destruction, j'allais dire, en matière médiatique.
À quoi pensez-vous en matière de pluralisme concernant Vincent Bolloré, précisément, en dehors
si
du
voulez.
Fait que vous étiez, vous, je crois, blacklisté à cause de l'histoire de Laurence Ferrari et de son émission?
Non, mais c'est pas grave, on n'ira pas sur iTélé, ça ne me gêne pas, ni sur Canal+, ça ne me gêne pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que Bolloré. Il y a le problème de Pinault, Arnaud, bref, tout le monde. Il n'y en a plus que 4 ou 5 qui détiennent l'ensemble des médias. Donc je propose de faire une loi comme cela a eu lieu dans l'audiovisuel il y a quelques années pour obliger finalement les journalistes à reprendre du pouvoir et être protégés. C'est d'ailleurs ce qui existe dans un certain nombre de pays du monde. Sur les paradis fiscaux, il y a une proposition d'un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman qui dit il faut mettre des droits de douane électroniques puisque maintenant toutes les transactions sont électroniques, on a la traçabilité intégrale, donc on est en mesure de prendre techniquement des mesures de taxation des paradis fiscaux. Eh bien, je suis favorable. Alors évidemment, on va se brouiller avec le Luxembourg, avec Monaco, avec les îles anglo-normandes. Mais ça, c'est ce que j'appelle le mur des puissants. Il faut l'affronter. Il ne faut pas se contenter de le regarder, de contempler son surplomb. Je peux parler des banques. Les banques ont été victorieuses. On a fait une fausse loi de séparation. C'était une loi qui a été pilotée par Pierre Moscovici, où on a déplacé 0,8% du bilan des banques. Donc je crois qu'il va falloir reprendre ce travail, parce que les banques sont revenues à une rentabilité exceptionnelle, elles ont toujours un certain nombre de mises en danger systémiques dans la zone euro, et en plus, je suis désolé, nous avons un problème avec le financement de l'économie réelle. Les PME n'arrivent pas à se financer dans le système bancaire français. Donc nous avons à réorganiser ce système. Nous avons baissé les bras, finalement, c'est ce que cela voulait dire.
Arnaud Montebourg, avec votre... départ du gouvernement en 2014, vous êtes devenu le symbole d'une gauche de gouvernement qui s'est déchirée pendant au moins 3 ou 4 ans. Vous pensez qu'un seul vote à la primaire pourrait faire de vous, si par hypothèse vous l'emportez, un candidat de rassemblement de la gauche?
Je le crois, car nous sommes tournés vers l'avenir. Les propositions que je formule sont des propositions qui réunifient les différentes gauches. La gauche sociale, la gauche du travail, la gauche morale et des valeurs, la gauche entrepreneuriale. J'en suis moi-même un, travaillant maintenant dans le secteur privé. Il y a cette sensibilité visant à une forme de libération de la société à la base, la suradministration du quotidien, la surtaxation de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Et dans les petites entreprises, le principal capital, c'est le travail. C'est l'artisan, la TPE, et j'ai un programme très important pour aider ces catégories de la population qui sont des nouvelles formes de salariat et de dépendance, finalement.
Alors, on a des auditeurs en ligne qui voudraient avoir des détails ou des précisions et qui voudraient vous les demander directement. Jimmy qui nous appelle de Caen, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Monsieur Mondon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
La question que je voulais vous poser, vous avez été ministre du redressement productif et à cette occasion vous avez été confronté à la Commission européenne, notamment au commissaire européen en charge du commerce. Oui. Quelles sont les actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en œuvre en tant que président pour, on va dire, intéresser l'Europe à la problématique de l'évasion des emplois français, moi-même étant cadre de l'industrie, puisque l'Europe s'en fiche finalement, c'est un problème franco-français, c'est comme ça que ça vous a été répondu à l'occasion d'une émission sur France 5, en disant « débrouillez-vous avec vos emplois, ce n'est pas notre problème ». Alors comment on fait pour sauver les emplois en France? Et juste pour terminer, votre discours, moi je l'entends, mais on a eu un très beau discours il y a 5 ans de M. Hollande qui a trahi toute la gauche. Comment être sûr et avoir des garanties sur les engagements que vous prenez? Voilà, merci.
Merci Jimmy.
Première question, deuxième partie de cette question, la garantie. C'est le changement de système politique. Je défends depuis 15 ans la 6e République où je veux faire entrer les citoyens dans le système et organiser les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale avec contrôle des décisions de l'exécutif entre les mains, notamment de citoyens, par exemple, tirés au sort. C'est un changement considérable de la philosophie et de la pratique du système aujourd'hui monarchique où un homme seul peut décider de faire ce qu'il veut, y compris au mépris de ses propres engagements. Sur la question européenne, je voudrais vous donner un petit exemple. C'est d'abord la directive travailleurs détachés qui est un pur scandale où on a accepté finalement la violation de notre constitution. La constitution, elle dit, c'est principe d'égalité. Vous travaillez en France, tout le monde applique la même loi. Sauf les travailleurs détachés des pays européens où on les paye au lance-pierre et on importe finalement du dumping social à domicile et on ruine nos propres PME. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va réaffirmer la supériorité de la constitution sur cette directive européenne et donc suspendre cette directive européenne. Je peux prendre un autre exemple, c'est la question par exemple de l'acier, un sujet très important. Le dumping de l'acier chinois a provoqué de la part des Américains des droits de douane de 522%, qui c'est finalement un mécanisme de protection et de défense. L'Europe, et bien sûr la France, l'Allemagne, l'Italie, les pays producteurs d'acier sont menacés. Est-ce que on sait que M. Mittal, qui est propriétaire des installations en France, est allé voir M. Macron, il y a quelques mois, et M. Valls, en disant, écoutez, si vous ne me remédiez pas par des taxes anti-dumping sur l'acier chinois, je continuerai à fermer mes installations en France. Donc c'est Foss et Dunkerque, c'est quand même des milliers d'emplois qui sont concernés, qui sont maintenant dans le collimateur. Donc ça fait 10 ans que ça dure. Gandrange, ça a fermé, c'était Sarkozy. Florange, ça a fermé, c'était Hollande. Et voici que pour le prochain président, nous allons avoir une nouvelle crise sidérurgique. Est-ce que l'Europe est à la hauteur? Je dis non. Elle a pris des droits de douane. Vous savez de combien? 23 à 60%. Il manque un zéro. C'est 520% du côté américain. Voilà ce que nous devons faire. Donc, vous voyez que nous ne pouvons pas rester les bras ballants vis-à-vis de l'Union européenne. Nous allons devoir prendre des mesures visant à construire des blocs très offensifs au sein de l'Union si nous voulons la sauver. Parce que sinon, nous donnerons raison à M. Trump qui a dans le viseur la destruction de l'Union européenne. Et pour sauver l'Europe, il va falloir maintenant se bouger. Et ça n'a pas été le cas. On a tout abandonné de nos combats. Et ce monsieur a raison de dire que, finalement, le quinquennat était celui du renoncement. Moi, finalement, vous me demandiez ce que je fais, je reprends finalement le drapeau tombé dans la poussière du discours du Bourget.
Ça me rappelle une autre expression. Sébastien nous appelle du Jura. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Moi, c'est sur un autre point de vue que je veux poser la question. J'ai mal étant de gauche, de voir le Parti Socialiste préférer l'extrême droite à la gauche, de la gauche. Je m'explique. Il y a deux minutes, Vincent Peillon a accusé les autres de la gauche d'être les promoteurs de l'extrême droite en séparant l'action de la gauche. Est-ce que le Parti Socialiste est capable de prendre un petit peu de relativisme et de se dire que peut-être il n'a pas tout le temps raison? Et que peut-être il faut écouter les autres et finir par s'entendre et se dire que les solutions du Parti Socialiste ne sont pas tout le temps les meilleures.
Vous pensez, en l'occurrence, aux idées de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça, Sébastien?
Ah ben, je pense aux idées de Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a beaucoup, entre guillemets, à l'extrême gauche, les partis trotskistes, et tous ces gens-là ont des idées.
Arnaud Montebourg.
Ben, là où je peux donner raison à notre auditeur, c'est que je partage certaines choses avec Jean-Luc Mélenchon. C'est le cas, par exemple, de la 6e République. Je ne la ferai peut-être pas de la même manière que lui, mais au moins, sur l'objectif, nous savons que le système
politique... Pas avec
politique,
une constituante, comme il le préconise.
Ben non, parce qu'on va y passer, on va y engloutir le quinquennat à 2 ans, 3 ans. C'est ça, une constituante, hein, ce qui s'est passé quand on a fondé la 4e République. Donc, on le fera différemment. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de points de convergence qui existent avec les autres forces de gauche, avec Yannick Jadot également. Donc,
qu'est-ce qui va se passer au lendemain
mais
de la
primaire? Je vais vous répondre que nous avons une obligation historique. C'est une responsabilité historique. Nous ne pouvons pas laisser le pays dans un choix terrible entre le candidat de libéral brutal, comme je l'appelle, M. Fillon, et la famille Le Pen. Donc, il va falloir prendre des décisions importantes et s'unir. Donc, moi, je suis prêt à aller discuter, je l'ai dit, si je suis le vainqueur désigné de la primaire, et je demande un mandat aux électeurs de la primaire, d'aller discuter avec Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste français, Yannick Jadot, pour construire une candidature et un projet commun. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin, donc ça correspond finalement à ce que demande cet auditeur. Et ça, c'est une solution, je crois, raisonnable.
Jusqu'où serez-vous prêt à faire des concessions, parce qu'au bout du compte, il y a une élection présidentielle avec un seul homme, enfin, ou en tout cas une seule personnalité au bout. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Mais vous pensez en tout cas que ça ne peut pas rester, c'est la même question que je posais à Vincent Peillon, ça ne peut pas rester en l'état avec un candidat du PS.
Je partage ce point avec Vincent Peillon. Non, ça ne peut pas rester en l'état. Mais une chose est sûre.
Il a inclué Emmanuel Macron, vous ne l'avez pas cité.
Je n'arrive pas à savoir qui est Emmanuel Macron, puisque nous n'avons pas d'éléments permettant. Il est pour la fin des 35 heures. Voilà les positions. Il rend hommage à Philippe de Villiers au Puy du Fou, à Valéry Giscard d'Estaing à Chanona et à François Mitterrand à Nevers. Donc, essayez de comprendre quelque chose. Donc, moi, j'ai besoin de propositions claires. Il veut nationaliser l'UNEDIC. Je ne suis pas contre. Mais ça, c'est pas une vision de la société. Il veut faire la révolution, j'ai toujours pas compris laquelle. Donc, expliquons-nous. Moi, j'aime beaucoup Emmanuel Macron à titre personnel. J'ai toujours pas compris son orientation politique et où il veut emmener le pays en dehors du fait qu'il veut le pouvoir, ce qui est parfaitement honorable comme ambition.
D'autres que
donc,
vous, à gauche,
cette discussion
compris, hein.
pourra parfaitement avoir lieu. Mais pour l'instant, je ne vois pas. S'agissant finalement de la nécessité historique, bah, nous sommes tous obligés de prendre nos responsabilités. Donc, cette responsabilité, elle sera exercée. Et Jean-Luc Mélenchon a la même qui pèsera sur ses épaules. Parce que, finalement, on ne s'intéresse pas à soi dans une élection présidentielle. On s'intéresse à la France.
Donc, il faudra composer d'une façon ou d'une autre après le second tour de la primaire.
Ce sera un concerto à plusieurs mains, monsieur
Cohen. Primaire, finalement, cette primaire ne règle pas la question comme la primaire de 2011. Ce ne sera pas fini avec cette primaire.
Nous aurons les suffrages. Les autres auront les sondages.
Oui, mais
ça change tout. Parce que vous commentez des sondages, c'est-à-dire
les sondages. On commente aussi ce qui se passe.
Non, mais
dans
vous attendez. Je voulais
pas. Il y a des dynamiques de campagne. Aussi.
Oui, d'accord. Pierre Juquin mettait 10 000 personnes aussi, oui. Et Pierre Juquin fait 5%. Donc je ne sais pas si les salles sont les suffrages.
Injustement oublié.
Donc je voudrais. Non, mais je m'en souviens. Oui. Donc en vérité, c'était en 1988.
Oui. Merci Arnaud Montebourg d'être venu ce matin au micro de France Inter. Vous pouvez rester si vous le souhaitez, assister à la leçon de géopolitique que va nous administrer Sophia Aram dans 53 secondes.